La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Nadia Atroubi-Safsaf, auteure de Frères de l'ombre, un roman publié aux éditions Zellige. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, Nadia Atroubi-Safsaf, c'est un roman très émouvant sur la transmission et la mémoire à travers l'histoire de trois générations d'hommes. Un roman qui nous entraîne notamment au Sénégal, mais aussi dans les zones de combat en France durant la Première Guerre mondiale. Vous évoquez aussi la Seconde Guerre mondiale et la Résistance. Comment avez-vous découvert le parcours des tirailleurs sénégalais et pourquoi avoir voulu en faire un roman ?
Alors, ça fait très longtemps que je m'intéresse effectivement à l'épopée des tirailleurs sénégalais et des soldats coloniaux de manière plus générale. Et je pense que ça date même de mon enfance, quand j'ai découvert que mon grand-oncle, donc le frère de ma mère, avait été tirailleur. Et donc, ça a aiguisé ma curiosité. Et malheureusement, il est décédé sans que j'ai pu poser toutes les questions. Il est décédé quand j'étais ado. Je me rappelle juste qu'il m'avait parlé de l'Indochine, par exemple, et qu'il m'avait dit qu'il était bien triste qu'aujourd'hui, son fils, qui voulait faire des études en France, ne puisse pas y aller, alors que lui, il avait quand même risqué sa vie pour la France. C'était resté dans un coin de ma tête. Et quand j'ai fait mon livre « Ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants », j'ai effleuré un peu cette question des résistants venus d'ailleurs, des gens qui étaient venus d'ailleurs pour défendre la mère patrie. Et donc, j'ai eu envie de donner voix à ces héros qu'on a, à mon sens, oubliés. Mais je voulais pas que ça soit des soldats coloniaux franco-maghrébins, parce que je voulais pas être enfermée dans une identité, puisque dans mon précédent roman, j'avais valorisé des résistants algériens. Donc là, je m'étais dit que de toute façon, des soldats qui venaient de l'empire colonial, ce serait intéressant. Donc les tirailleurs sénégalais.
Qui est Issa, l'un des héros de votre livre ?
C'est un peu la figure fantasmée de mon grand-père que je n'ai hélas pas connu et que voilà, j'aurais imaginé quelqu'un de droit, quelqu'un qui avait envie d'aider les autres, un peu comme peut-être mon papa. Mais comme je n'ai pas connu mon grand-père, voilà, on me dit souvent que c'est le personnage préféré. Pourtant, il existe peu puisque c'est sa figure qui est évoquée. Mais voilà, pour moi, c'est un peu le grand-père que je n'ai pas eu.
Alors, il apparaît au début du livre. Comment Issa se retrouve-t-il embrigadé par l'armée française, loin de son Sénégal natal, pour participer à la Première Guerre mondiale ?
Alors, je voulais mettre l'accent sur les enrôlements de force, parce qu'on a oublié que souvent ces soldats sont venus parce qu'ils ont été obligés par l'empire colonial français, et de rappeler qu'on a arraché ces hommes à leur village, à leur famille, et que ça fait partie de la colonisation, et que c'est des épisodes de la colonisation dont on ne parle pas, et que ces hommes, ils sont venus donner leur vie. Et quand on donne sa vie, normalement, on donne sa vie en connaissance de cause, et parce qu'on a foi en quelque chose, et parce qu'on est poussé par un idéal, sauf que eux, ils donnaient leur vie, poussés par un idéal qui n'était pas le leur.
Issa a été piégé pour aller en Europe ?
Il n'a pas été piégé, mais il s'est senti obligé, puisqu'il a été élevé par son oncle, qui est le chef du village. Et les Français qui venaient enrôler de force les villageois avaient prévu d'emmener son fils s'il ne donnait pas le quota suffisant de villageois. Et donc, pour sauver son cousin et remercier son grand-oncle de l'avoir élevé, il s'est sacrifié.
Alors, voilà. Au début du roman, le soldat est aux arrêts pour avoir déserté. Comment se retrouve-t-il dans cette situation ?
Alors, en fait, on pense qu'il a déserté, mais c'est un peu plus manichéen que ça, donc les lecteurs le découvriront plus tard. Mais l'idée, c'était aussi de parler... On a oublié un peu tous ces événements de la Première Guerre mondiale, les fusillés pour l'exemple, ils les enrôlaient de force, mais aussi les fusillés pour l'exemple. En France, ça existait aussi, des gens qui n'avaient pas envie d'aller combattre les Allemands, et qui étaient portés par un idéal pacifiste, par exemple. Donc souvent, on les a pointés du doigt et eux ont été fusillés, pour l'exemple. Mais on parle peu aussi de ces gamins qui ont été arrachés et qui, eux, découvraient l'horreur de la guerre, et que face à cette horreur, certains essayent de fuir, ce qui me semble aujourd'hui très légitime quand on a 18 ans et qu'on voit mourir des enfants, des jeunes gens de son âge autour de soi. On n'a pas forcément envie d'être le prochain. Et donc, on a un peu oublié ces jeunes Français qui ont été eux aussi en relais de force et qui eux aussi ont voulu fuir l'horreur de la guerre et qu'on a passé par les armes.
Comment étaient traités les tirailleurs sénégalais par l'armée française lors de la Première Guerre mondiale ?
Alors, je voulais un peu aussi tordre le cou à une idée de chair à canon. Parce que souvent, et moi-même, hein, je pensais que c'était le cas, qu'il y avait eu une volonté délibérée d'en faire de la chair à canon, alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une question de classe sociale surtout, et que les gens qui mouraient étaient tout simplement les petits gens. Donc, ça pouvait être les cafetiers, les postiers. Donc, c'était vraiment pas qu'une question de couleur, en fait. C'était vraiment plutôt une question de classe sociale. Et donc, c'est ça que j'essaie de rappeler aussi, et de rappeler qu'il y a eu... il y avait aussi des gens forcément racistes qui étaient portés par l'idée que l'homme blanc était supérieur à l'homme noir. Il y a eu une volonté de quand même les traiter correctement. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, tiens, on va mal les traiter parce que ce sont des soldats noirs. Bien sûr, il y avait des gens racistes qui pensaient que ils étaient supérieurs à ces hommes. Il n'y avait pas une volonté étatique, j'ai envie de dire, de mal les traiter. Ça s'est fait de manière sporadique par endroit. Et ça, c'était important aussi pour moi de le rappeler, qu'il y avait aussi de l'humanité entre les soldats blancs et les soldats noirs, parce que ça dépassait le clivage de la couleur, mais encore une fois, de revenir à un clivage plutôt de classe sociale.
Est-ce que les tirailleurs sénégalais ont laissé des écrits, des témoignages ?
Pas tellement. Alors, il y a quelques traces. Il y a quelques traces. Il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a Julien Masson, par exemple, qui est allé à la rencontre des tirailleurs sénégalais de la Seconde Guerre mondiale et de l'Indochine, par exemple. Mais d'abord, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire le français. Donc, c'était encore plus difficile pour eux de laisser trace. Souvent, on a laissé trace pour eux. Mais effectivement, il y a eu très peu ce devoir de transmission et de mémoire. Et c'est ce que moi, j'essaye à ma petite échelle de corriger.
Alors on fait la connaissance aussi d'un vieux monsieur, on parle de Issa au début du livre, ensuite on fait la connaissance de Ousmane, qui est un vieux monsieur qui rencontre une assistante sociale à l'hôpital et qui frémit à l'annonce de son nom, car elle est comme lui d'origine sénégalaise. Et qui est Ousmane ?
Alors Ousmane, c'est le vrai héros du livre, avec Issa, parce que c'est vraiment ces deux tirailleurs que je voulais mettre à l'honneur. Alors Ousmane, c'est le fils de Issa qui part à la rencontre, à la recherche de la vérité sur son père qui a disparu dans la guerre de 14-18. Il ne sait pas pour quelle raison, il ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. Donc il veut savoir, donc il part jusqu'en France et pour aller en France, il est obligé de s'enrôler dans la Seconde Guerre mondiale. Donc lui, il n'est pas enrôlé de force, il s'enrôle de son plein gré. Ça va devenir un héros de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Et il va pouvoir découvrir la vérité sur son père et il va retrouver un compagnon d'armes de son père qui lui va pouvoir lui faire la vérité sur ça, qui va pouvoir lui faire récit des années de guerre de son père.
Il y a un troisième personnage qui s'appelle Djibril. Là, c'est la troisième génération.
C'est même quasiment la quatrième, puisque c'est le petit-fils d'Ousmane. Donc c'est l'arrière-petit-fils de Issa. On vous suivez jusque-là. En fait, il y a Djibril est le fils de la fille d'Ousmane. Et on va apprendre aussi d'autres choses à travers le livre. Et Djibril, alors lui, c'est un jeune homme qui n'est pas du tout intéressé par ces questions de mémoire, de transmission, et qui considère que ça ne le regarde pas. Et qui découvre petit à petit son identité à travers le regard des autres. Il y a une amie militante qui va lui reprocher de pas s'intéresser à ça, mais il va comprendre aussi tout dépend de l'histoire familiale grâce à la grande histoire. Donc c'est vraiment la petite histoire à travers la grande histoire. Voilà. Ça fait un peu lieu commun de le dire, mais c'est vrai. On éclaire toujours la grande histoire à travers des récits singuliers pour la comprendre.
Alors, vous citez ce proverbe, tant que les lions n'auront pas leur propre histoire, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. C'est un proverbe qui vous a accompagné dans la rédaction de ce roman?
Oui, beaucoup. C'est un proverbe que j'ai déjà eu l'occasion d'écrire même dans mes articles, dans le magazine que je dirige, le Collège d'Atlas, parce qu'il nourrit et résume mon état d'esprit. C'est-à-dire que pour moi, il est absolument important aujourd'hui de donner corps à d'autres histoires pour éclairer l'histoire, notre histoire commune. Et il peut plus y avoir qu'un son de cloche. Moi, pendant des années, par exemple, j'ai ignoré que le 8 mai 45, assétif également en Algérie, ont tiré sur des hommes qui réclamaient l'indépendance de manière pacifique. Et ça, je trouve que c'est important aujourd'hui de le rappeler. Mais comme j'ai longtemps ignoré le naufrage du bateau l'Afrique au large des côtes françaises en 1920, pourtant c'est notre Titanic français. Mais qui le connaît aujourd'hui ce naufrage? Personne. J'ai longtemps ignoré le massacre de Chasselet aux portes de Lyon, ce massacre du 18 et 19 juin 1940, parce qu'on ne les a pas enseignés. Pour moi, le 18 juin 1940, c'est l'appel du général de Gaulle, et puis c'est l'appel à le Pétain pour l'armistice. Mais j'avais jamais entendu parler du massacre de Chasselet. Et je pense que on a besoin de connaître notre histoire commune. Pour se sentir français, il faut qu'on nous dise qu'on appartienne à cette nation. Et comment on appartient à cette nation? Quand on sait que nos aïeux sont venus défendre la France et sont parfois morts pour la France.
Ce roman, vous l'avez écrit aussi en réaction au discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, oui, où il prétendait que les Africains n'étaient pas entrés dans l'histoire?
Tout à fait. Le même Nicolas Sarkozy qui avait créé, je vous rappelle, le ministère de l'immigration et de l'intégration et de l'identité. Et donc, je trouvais ça quand même assez cocasse qu'il se déplace dans un autre pays et qu'il passe la leçon à d'autres gens dans un autre pays, alors que lui-même n'a jamais reconnu l'apport des tirailleurs sénégalais, par exemple, ou en tout cas l'apport des immigrés dans l'histoire de France. On parle souvent de la France qui se lève tôt. Quand vous regardez la France qui se lève tôt, elle est basanée, cette France qui se lève tôt. Donc il y a un apport qui est historique, économique, social. Et moi, j'avais envie de lui répondre ça, de lui dire que l'homme africain est d'ores et déjà rentré dans l'histoire.
Vous avez raconté dans votre précédent roman comment des musulmans avaient sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce roman, vous évoquez les tirailleurs sénégalais qui ont joué un rôle très important dans les deux guerres mondiales. Il y a comme ça de nombreuses pages d'histoire qui restent à écrire.
Oui, j'ai cité l'une d'elles, le massacre de Chasselet, mais par exemple, il y a le massacre d'État de Kaoré, par exemple, qui est en décembre 1944, des tirailleurs sénégalais qui réclament leur solde et l'armée française tire sur eux, à Dakar. Donc, il y a des pages d'histoire comme ça qui sont encore oubliées, et quand elles sont pas oubliées, elles sont méconnues, et quand elles sont pas méconnues, elles sont niées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, comme l'historienne Armel Mabon, à faire connaître ce massacre colonial, voilà, et dont on a peur de parler encore une fois en France, parce que elle pointe la responsabilité de l'État français. Mais les choses avancent, puisqu'on l'a vu, il y a eu la reconnaissance dans la mort de Maurice Audin, du mathématicien en Algérie. Il y a eu la reconnaissance des massacres au Rwanda. Donc petit à petit, peut-être que la France a commencé ce travail de repentance, et que un jour on saura la vérité aussi sur le massacre de Kaoré, puisque les chiffres sont largement sous-estimés d'après Armel Mabon, par exemple.
Dernier mot, Nadia Atroubi-Safsaf, sur ce joli titre, Frère de l'ombre. C'est une référence à ce passé occulté que vous voulez mettre en pleine lumière?
Oui, oui et non. C'est-à-dire que d'abord, pour être honnête, le premier titre était Frère d'âme, et évidemment, ça avait été pris par David Diop, puisque son livre est sorti avant moi. D'ailleurs, j'avais mis un coup d'arrêt à mon livre, donc j'avais arrêté d'écrire après ça, puisqu'il n'était pas fini. Et je m'étais dit, mais bon, s'il écrit un livre, c'est Tirailleurs sénégalais, qui a le même titre, je vois pas l'intérêt de poursuivre mon travail. Et puis finalement, je me suis dit que sans l'avoir lu, on aurait de toute façon deux fictions différentes, deux voix différentes. Et bien sûr, il a fallu chercher un autre nom. Donc, on a hésité entre plusieurs, mais c'était vraiment Frère de l'ombre, l'idée de sortir de l'ombre de l'histoire, déjà. De sortir de l'ombre, tout simplement, être à la lumière. Et puis, j'aimais beaucoup l'idée qu'il y ait aussi le mot frère dans le titre, parce que c'est un clin d'œil à mon précédent roman aussi, ce sont nos frères, leurs enfants sont nos enfants. J'aime bien l'idée de fraternité, et je trouve que ça me ressemble, que ça existe dans le titre. Voilà. Pour le troisième roman, l'enjeu, ça va être réussir à mettre frère dans le titre. Voilà.
Merci Nadia Atroubi-Safsaf. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce très beau roman, Frère de l'ombre, roman que je recommande aux auditeurs de la bibliothèque de Radio-Orient et qui a été publié aux éditions Zellige. Merci.
Merci beaucoup pour cette invitation. Merci.
C'était la bibliothèque de Radio-Orient avec Loïc Barrière.